êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Après la mort du petit Ryan tombé au fond d'un puits dans le nord du Maroc, le royaume a décidé de recenser tous les puits abandonnés ou clandestins du pays. La présidence du gouvernement tunisien annonce la levée du couvre-feu sur l'ensemble du pays. Il était en vigueur de 22h à 5h du matin. Près d'une semaine après la dégradation samedi dernier d'une statue de l'émir Abdelkader à Amboise, en Indre-et-Loire, regarde votre journal sur le lien qui unit l'émir à la ville d'Amboise, là où il avait été assigné à résidence au 19e siècle. Nous écouterons l'écrivaine Martine Lecoz. Elle réside à Amboise et a écrit deux livres sur l'émir Abdelkader. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, l'Assemblée nationale a adopté cette semaine le projet de loi portant reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les harkis et leurs familles. Une loi très décevante pour Fatima Benassi Lankou, docteur en histoire, spécialiste de la guerre d'Algérie, cofondatrice de l'association Harkis et Droits de l'Homme. Vous l'entendrez. L'alerte nationale est lancée. L'établissement français du sang fait état d'une urgence vitale face à une pénurie de dons du sang en France. Nous écouterons le professeur Jacques Chiaroni, directeur de l'établissement français du sang en région PACA et Corse. Après la mort du petit Ryan dans le nord du Maroc, le ministère marocain de l'équipement va recenser tous les puits abandonnés ou clandestins. Les contrevenants seront sanctionnés. L'opération annoncée va consister à fermer ces puits ou les remettre en état pour prévenir tout risque pour les populations. L'enfant de 5 ans tombé accidentellement au fond d'un puits exigu et asséché a été extrait samedi dernier sans vie malgré les efforts acharnés des sauveteurs pendant 5 jours. Un drame qui a suscité une immense émotion au Maroc et dans le monde entier. La présidence du gouvernement tunisien a annoncé la levée du couvre-feu sur l'ensemble du pays, une mesure entrée en vigueur hier. L'interdiction des rassemblements et des manifestations est maintenue pour une semaine supplémentaire. Les autorités ont aussi annoncé l'annulation dès mardi prochain de la présentation d'un test PCR négatif pour les personnes âgées de plus de 18 ans en provenance de l'étranger et qui ont terminé le processus de vaccination contre le Covid-19. Cela à condition de présenter un certificat prouvant l'achèvement du schéma de vaccination ou un passeport vaccinal. Une enquête ouverte après les dégradations de la structure en hommage au héros algérien Abdelkader. Le maire d'Amboise a maintenu l'inauguration malgré cet acte de vandalisme commis samedi dernier. L'occasion de nous intéresser au lien qui unit l'émir à la ville d'Amboise où il avait été assigné à résidence au 19e siècle et où 25 de ses proches reposent dans un cimetière aménagé par l'artiste Rachid Koraïchi. Entretien avec l'écrivaine Martine Lecoz. Elle réside à Amboise et a écrit deux livres sur l'émir Abdelkader avant de s'intéresser à la philosophie indienne. Martine Lecoz.
Si je n'avais pas étudié un peu les textes même de l'émir, je crois que je n'aurais pas été capable d'entrer mais un tant soit peu dans la philosophie indienne, les philosophies indiennes. Il y a des rapprochements possibles par la voie soufie. Et ça, je l'ai dû à l'émir. Je ne crois pas que j'aurais pu passer directement de ma foi de chrétienne et même des quelques études juives que j'ai pu mener de mon côté. Je ne crois pas que j'aurais pu accéder à l'Inde sans l'émir. Alors c'est peut-être difficile à expliquer, mais il y a cette notion d'absorption dans le souffle, d'être le fait d'être par la voie spirituelle réabsorbé dans le divin.
Quel souvenir a laissé l'émir Abdelkader à Amboise?
Ah mais c'est drôle parce que c'est un souvenir très vivant, parce qu'il y a encore quelques années, j'ai rencontré des personnes déjà âgées, qui avaient bien 75 ans, 80, 85 ans, qui m'ont rapporté leurs souvenirs quand ils étaient petits-enfants, leurs grands-parents leur racontaient à eux qu'il voyait l'émir se promener dans les vignes. Il voyait son burnous blanc dans les vignes autour d'Amboise. Et puis nous savons que, pas les deux premières années de son séjour à Amboise, pendant les deux dernières années, les portes se sont ouvertes. Il pouvait sortir, il était escorté. Mais les proches, les plus proches, et même parmi les dignitaires qui étaient avec lui, certains ont même fait les vendanges avec les Amboisiens. Alors, c'est vous dire que les liens s'étaient beaucoup resserrés et que c'était devenu une amitié. Et puis, dans le cas de l'émir et du curé d'Amboise en particulier, c'était absolument magnifique, alors que le curé d'Amboise, évidemment, n'avait pas l'érudition de l'émir. Mais il avait une droiture. Le dialogue était possible parce qu'ils avaient la même droiture.
L'émir Abdelkader était présent à Amboise avec une partie de sa famille. Certains membres de sa famille sont décédés à Amboise et sont enterrés dans le jardin du château.
Oui, c'est ça. Alors d'abord, ils avaient été ensevelis dans une sorte de fosse commune, mais un monument avait déjà été érigé pour eux. Et quand Rachid Korachi est venu ici, il a complété le monument ancien qui était là, parce que il a eu ce geste très beau et tellement en accord avec l'esprit de l'émir, il a fait intervenir au jardin des artisans d'Algérie, d'Amboise et de Syrie, puisque l'émir était toujours lié à son maître Ibn Arabi. Et alors Rachid a fait dresser des pierres cubiques pour évoquer la Kaaba. Il a fait sculpter un verset coranique sur chacune de ces pierres et il a attribué à chacune de ces 25 personnes un sigle, c'est un peu l'écriture particulière de Rachid Korachi, en bronze pour que chaque personne reçoive une attention particulière. Et alors, ce jardin est traversé par une grande ligne qui est plantée justement qui est plantée d'arbres médicinaux pour indiquer la direction de la Mecque. Et puis, une autre plaque a été installée il y a quelques années. Rachid Korachi est revenu pour que les noms de toutes ces personnes soient gravés là. Et l'émir est très présent dans notre ville. Notre maire actuel a redonné une place à l'émir, mais il y a eu un moment extrêmement important, justement à l'occasion de l'inauguration du Jardin d'Orient en 2005, au mois de juin, fin juin 2005, pour la première fois, le nom de l'émir Abdelkader a été donné à une rue en France. C'est exactement la rue qu'on appelle la Montée du Château. Donc c'était la première fois, même l'inauguration de la place à Paris a eu lieu un an plus tard, je crois, je m'y trouvais aussi. Donc pour nous c'est important. Alors c'était un autre maire, c'était un autre bord politique, mais vous voyez, l'émir, oui, peut réunir les opposés, il peut harmoniser les contraires, et nos maires successifs, en tout cas les deux derniers, ont tenu et tiennent à honorer l'émir.
L'écrivaine Martine Lecauze, elle répondait à Loïc Barrière. Quelques centaines de magistrats et d'avocats ont manifesté hier sur les marches du palais de justice à Tunis. Ils protestaient contre la dissolution du conseil supérieur de la magistrature décidée par le président Kais Saied. Plus de 200 manifestants se sont aussi rassemblés devant le bâtiment en soutien à une grève observée mercredi et hier par les magistrats. Le Fonds monétaire international a annoncé la tenue d'une mission en mode virtuel en Tunisie. Ce sera du 14 au 22 février prochain. Il s'agit de poursuivre les discussions avec les autorités tunisiennes qui ont demandé une aide de l'institution. Un attentat en Somalie, au moins 6 personnes ont été tuées, 12 blessées hier à Mogadiscio, la capitale somalienne qui a été ces dernières semaines le théâtre de plusieurs attaques terroristes. Les États-Unis condamnent fermement l'attaque des rebelles yéménites Houthis déjouée hier en Arabie Saoudite. 12 civils ont été blessés par des fragments de drones tombés sur un aéroport. Nous nous engageons à soutenir l'Arabie Saoudite dans la défense de son peuple et de son territoire contre ces attaques, selon les mots du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. En Syrie, 9 combattants affiliés aux forces kurdes et 9 djihadistes ont été tués dans des attaques nocturnes. Cela s'est passé dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Une annonce de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, l'Assemblée nationale en France a adopté le projet de loi portant reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les harkis et leurs familles. La France reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie des personnes rapatriées d'Algérie. Une loi de reconnaissance et de réparation très décevante pour Fatima Benassilankou, docteur en histoire, spécialiste de la guerre d'Algérie et cofondatrice de l'association Harkis et Droits de l'Homme.
Pour moi, Ce texte n'est pas à la hauteur de la promesse du président de la République qu'il a faite le 20 septembre dernier. Il y a eu des mots extrêmement forts comme la demande de pardon, et puis une promesse de mettre en place rapidement une loi. Et cette loi, donc, effectivement, elle est passée dans les deux chambres, hein, donc elle est passée entre les mains des parlementaires. À mon sens, elle n'est pas à la hauteur. Voilà, donc, de ce qui était attendu. Et elle va concerner peu de personnes. Si c'est une loi qui devait apporter un apaisement, à mon avis, elle ne va rien apporter du tout, puisqu'elle va laisser tant de personnes avec un sentiment d'injustice, des personnes qui ont quitté précipitamment leur pays en 1962, des personnes qui ont souffert aussi. Et voilà, ça va laisser un sentiment d'injustice, et c'est dommage pour la collectivité nationale. Vous savez, laisser des gens malheureux comme ça, c'est jamais bon, c'est bon pour personne, ni pour les personnes laissées au bord de la route que pour les autres.
Et le fait que la France reconnaisse sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 62 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie, est-ce que ces mots sont apaisants et suffisants pour vous?
Je vais parler plutôt de la collectivité, hein, de l'ensemble en tout cas de ce groupe. Non, bien évidemment que non. Non. Il a fait un pas qui nous avait semblé un pas de géant, mais en fait, non. Quand on y regarde maintenant de près, laisser autant de personnes, sur le plan humain, c'est pas supportable, quoi.
Qu'est-ce que vous auriez souhaité, Fatima Benassi, d'un coup?
Écoutez, au moins que toutes les personnes rapatriées en 1962 et leurs enfants rapatriés avec eux soient concernés par cette loi. Voilà. Donc, ça, c'est le minimum, hein, et c'est peut-être la chose la plus acceptable, même si je pense qu'il faudrait aller encore plus loin. Mais voilà, ça, c'était qu'elle concerne toutes les personnes rapatriées. Voilà, ça, c'est... Mais qu'on en laisse comme ça, qu'on fasse un tri, il y en a un qui est passé là, dans un camp, l'autre pas, ou dans une cité, ou pas, etc. Enfin, c'est pas supportable. Parce qu'une famille peut avoir tout perdu en 1962, avoir des membres de leur famille qui ont pu être massacrés pendant l'été 62, avoir été persécutés, et en arrivant en France, ne pas avoir été mise dans un camp. Et c'est pas pour ça que cette famille-là n'a pas souffert. Le critère, c'est d'être passé dans un camp. Bien sûr, bien évidemment que c'est scandaleux. Il y a des personnes qui ne sont pas passées derrière des fils barbelés, qui ont été persécutées parce que abandonnées en Algérie par les autorités françaises, qu'elles n'avaient pas reçu la protection donc de l'armée française, puis des civils français. Enfin, voilà. Donc sans protection, il y a beaucoup de familles qui ont souffert. Et le fait qu'elles ne soient pas passées par un camp, on leur dit, écoutez, vous n'allez pas être concernées par cette loi parce que vous n'avez pas souffert. Mais enfin, de quel droit? Comment est-ce qu'on peut juger qu'une personne a souffert ou pas?
Fatima Benassi Lankou, docteur en histoire, spécialiste de la guerre d'Algérie, cofondatrice de l'association Arki et Droits de l'Homme. L'alerte nationale est lancée. L'établissement français du sang fait état d'une urgence vitale face à une pénurie de dons du sang en France. Entretien avec le professeur Jacques Chiaroni, directeur de l'établissement français du sang en région PACA et Corse.
La situation est inédite car il faut savoir que depuis les 21 ans d'existence de l'EFS, nous sommes vraiment à un niveau de réserve nationale qui est en deçà du seuil de sécurité. Notre seuil étant à 100 000 poches, nous sommes à 70 000, il nous manque 30 000 poches qu'il faut pouvoir évidemment récupérer dans les jours qui viennent. Donc une situation extrêmement critique qui pourrait évidemment s'avérer compliquée pour transfuser les patients dans les jours ou semaines qui viennent. Et évidemment, il est inenvisageable de ne pas avoir de sang pour transfuser nos patients.
Il n'y a pas pour le moment de conséquences directes, mais la situation est particulièrement alarmante.
La situation est inquiétante dans la mesure où si nous continuons et si nous n'avons pas de sursaut, je dirais, chez nos donneurs, eh bien nous devrons envisager de reporter tout ce qui est reportable et qui est consommateur potentiellement de sang, de façon à réserver le sang, nos stocks pour les transfusions en urgence. Donc, évidemment, cela serait néfaste de faire attendre à nouveau des personnes qui attendent une intervention ou qui attendent autre chose. Et donc, on ne voudrait pas arriver à cette action. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument un sursaut de citoyenneté dans les jours qui viennent.
Le professeur Jacques Chiaroni, directeur de l'établissement français du sang en région PACA et Corse. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Céline Calvez, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Très bon début d'après-midi.